ton nom dans le livre de la Genèse, chapitre 15, pour un mot d'introduction ce matin.
What a beautiful song.
Quel chant très beau.
His name,
son nom.
What a wonderful name.
Quel nom merveilleux.
The name,
le nom.
God. What's in a name?
Le nom de Dieu. Hey, qu'est-ce qu'il y a dans le nom?
Think of names, okay?
Pensez à des noms.
You can talk to your neighbor for a second.
Parlez names à votre voisin pour une seconde. Des noms, des compagnies de voitures, des pays, des compagnies, des héros, scientifiques, des inventeurs, des politiciens, les noms, l'univers, le quadrant de l'univers, la voie solaire, le Milky Way, des noms, les noms. Allez-y, vous avez 10 secondes. Bonjour, nous sommes à Baltimore le 6 mars 2022. 11h du matin, Pasteur Schaller est le prédicateur ce matin, le pasteur de l'église. Genèse chapitre 15. Écoutez donc,
Christ
a un nom qui est au-dessus de tous les noms qui est nommé. Est-ce qu'il est au-dessus de Toyota, Volvo, Vietnam, Einstein, George Washington? Votre nom est mon nom. Il est, son nom est au-dessus de tous les noms qui est nommé pour toujours et toujours. Son nom, c'est Dieu. Il est Dieu. Il est Jésus-Christ. Regardez Genèse chapitre 15. On a une image ici qui va aider dans notre message ce matin. Dieu fait une alliance. Il veut que Abraham connaisse la nature de l'alliance. Au verset 9, Abraham prend, l'Éternel lui dit, prend une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Verset 10. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Il fait une allée. Il met la moitié d'un animal d'un côté, la moitié d'un autre animal de l'autre côté. Il y a une cérémonie, comme une cérémonie religieuse de mariage. Le fiancé arrive, ils font un accord, ils marchent dans l'allée, ils s'approchent de l'estrade, ils font un accord. Ça, c'est le monde ancien. Lorsqu'ils faisaient des accords, ils coupaient un des animaux au milieu, en deux. Et il faisait un accord, il marchait au milieu des deux parties des animaux. Dieu fait un point ici. Et c'est ce que Abraham, tu seras le père d'une grande nation. Ça sera grâce à cause de moi et non pas grâce à toi. Ça c'est grâce à moi, Dieu. Dieu fait une alliance avec lui-même. Abraham, il va tomber de sommeil. Chapitre 15, verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passaient entre les animaux partagés. C'est quoi la signification de cela? Les commentateurs bibliques nous disent, c'est Dieu, au milieu des morceaux, lui, qui fait une alliance avec lui-même. La lumière brûlante, c'est Dieu, qui Dieu a appelé dans Genèse 12, 29, notre Dieu est un feu qui brûle. Jésus, lorsqu'il nous baptise, il nous baptise avec du feu spirituellement. Il y avait le buisson ardent qui n'était pas consumé parce que c'était un feu spirituel. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Il est tombé sur les 120 croyants. Il y avait des langues de feu sur leur tête à chacun. On a un feu spirituel. Et ici, dans l'histoire, nous avons on a la fournaise qui brûle. Il y a une fournaise fumante, des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, au verset 18, l'Éternel fit une alliance avec Abraham. qu'est-ce qu'il a dit? Et je dis, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Ça signifie, Dieu a promis à un homme, il n'est pas un fils encore, cet homme, il sera une grande nation. 400 années passeront, ils sortiront de l'Égypte, ils vont hériter de ce pays. Et ça va se passer parce que Dieu fait cette promesse basée sur lui-même. Où est Abraham là-dedans, dans l'histoire? Au verset 12, chapitre 15, verset 12, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que les descendants seront étrangers, dont il dort profondément. Il y a une frayeur et une grande obscurité. Est-ce que ça s'est passé déjà envers toi? Envers vous? C'est la chose vraiment avec les croyants, c'est réel. Avec les croyants. Une alliance est faite, où est-ce que je suis? Je dors. Lorsque l'alliance est en train de se passer, je suis effrayé. Lorsqu'il y a une alliance, il y a l'obscurité, les ténèbres dans mon âme ou bien à l'extérieur. Je ne suis pas capable de le faire. Je ne suis pas capable de garder l'alliance. Ça s'est passé avec Jean 17. Jésus dit dans sa prière aux disciples, il leur dit, dans la prière, il dit, Père, garde-les. Garde-les. Je vais ajouter mes paroles à moi. Dans quelques heures maintenant, ils vont partir, ils vont m'abandonner, ils vont s'enfuir. Ils seront dans les ténèbres. Ils seront effrayés. Ils vont essayer de sauver leur vie. Ils seront partis. Le Père, c'est toi et moi, et le Saint-Esprit qui les a sauvés. Vous, toi et moi, tout ensemble, je suis le Sauveur. Tu fais ton travail, et le Saint-Esprit est fidèle. Pourquoi est-ce que c'est important, ça? Je veux parler ce matin à propos de notre salut. Je veux vous montrer quelque chose à propos de notre salut. Combien il est grand. Notre salut est grand. C'est quelque chose que Dieu fait. C'est quelque chose qu'il a fait. Notre salut est incroyable. Tu peux dire, je ne suis pas venu, j'étais quelques minutes en retard. J'étais perturbé, j'ai eu une mauvaise journée. J'étais dans les ténèbres, j'étais effrayé. Je n'avais pas ça en moi, je n'avais aucune force dans mon cœur. Je n'avais aucun désir. Dieu va dire, oui, je le sais. C'est pour ça que moi, j'ai fait l'alliance entre mon fils et moi. Nous avons fait l'accord. On va te sauver. Nous allons te sauver. Nous allons te garder. On va rendre ta vie en sécurité. On va te sauver par la grâce de Dieu, par notre grâce. C'est notre thème ce matin. OK? Amen. Souhaitez la bienvenue à Pasteur Steve Andolini. Je veux donner mon cœur. À qui? À qui est-ce que je peux donner mon cœur? N'est-ce pas? N'est-ce pas une bonne question? C'est par rapport au chant qu'ils ont chanté là. Je te donne mon cœur, Dieu. Le message
reprend.
Parfois, je ne donne pas mon cœur à Dieu. Je donne mon cœur au monde. Je donne mon cœur. Peut-être à l'argent, peut-être à une personne, un travail, une carrière. Je donne mon cœur a un espoir pour le futur, une création. Je donne mon cœur à tellement de choses. Pourquoi? Parce que le cœur idolâtrise, a des idoles. J'adore des idoles dans mon cœur. 1 Jean 5. Petits enfants, n'adorez pas des idoles. Mais nous le faisons. Mais la nouvelle naissance, c'est le miracle de notre vie. C'est la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau. Dieu nous donne un nouveau cœur. Qu'est-ce que ce cœur fait? Je vous donne mon cœur. Je vous donne mon cœur. Je vous donne mon cœur. Je vous fais confiance. Je sais qui tu es. Je te fais confiance. Parce que Dieu connaît et il sait que l'on peut dormir, être effrayé ou terrifié, être perturbé, cauchemar. As-tu jamais eu des cauchemars? Tu te réveilles et tu transpires. Tu paniques. J'ai lu à propos de ça. Ça peut se passer envers les gens. On n'a pas d'argent, on est court en argent. On échoue. 3 semaines, on n'a pas payé. Chaque jour. La 4e semaine, le 1er jour, la 7e heure. Où es-tu? Tu n'es pas là. Tu n'as pas suffisamment. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu n'es pas suffisant pour toi-même. Vous et moi, on n'est pas suffisamment pour nous-mêmes. On a la nouvelle naissance. Ésaïe, chapitre 1, tourné. Ésaïe, chapitre 1. Ensuite, on ira à 2 Timothée, chapitre 3. Pour se concentrer sur un verset. 2 Timothée 3, 15. 2 Timothée 3, 15, c'est ce qu'il y a derrière notre compréhension. 2 Timothée 3, 15, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Qu'est-ce qui s'est passé? Le père de Timothée était grec, sa mère était juive. Sa mère et sa grand-mère ont enseigné Timothée les Écritures dès son enfance. Il est un enfant, l'âge de 7 ans, non, il avait l'âge de 2 ans, il était très très jeune, un enfant très très jeune, il était enseigné les Écritures. Verset 15, les saintes lettres qui peuvent te rendre sage au salut. Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas sages par rapport au salut. Demande-leur, pourquoi es-tu sauvé? Comment peux-tu être sauvé? Comment est-ce que tu as été sauvé? Es-tu sauvé? Ils n'ont aucune idée de ce que tu parles. Ils ne savent pas rien à propos de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Si vous connaissez la Bible, peut-être vous ne connaissez pas la Bible de la bonne façon. Je dois connaître la Bible par le ministère du Saint-Esprit. Comment est-ce que je peux savoir ce que je lis, connaître, à moins que quelqu'un m'enseigne? Acte 8, verset 20. Comment est-ce qu'on peut connaître, savoir, à moins qu'on a le Saint-Esprit comme notre enseignant? On a une onction qui nous enseigne. 1 Jean 2, 20, verset 27. On a été bénis d'une compréhension spirituelle. Vous et moi, nous apprenons la Bible, on médite la Bible et on connaît la Bible. C'est très très bon ça. J'ai un texte ici très long. On va pas. Jean Adams Quincy, il était un président des États-Unis il y a longtemps, il a écrit une lettre à son fils. Il lui disait de lire la Bible. Son père lui dit, ma coutume, Jean Quincy Adams le dit à son fils, il écrit une lettre, ma coutume, c'est d'écrire, de lire 4 ou 5 chapitres de la Bible chaque matin. Immédiatement, dès que je me lève le matin, je sors de mon lit, ça prend une heure de mon temps. C'est essentiel, mon fils, en fait, que tu puisses traverser la vie avec du confort pour toi-même, du réconfort, d'être utilisé pour les gens autour de toi. Et certaines règles et des principes pour le gouvernement de ta propre conduite et de ton tempérament. L'éducation dans la Bible. C'est tellement important. Mais nous vivons dans une époque où on a beaucoup de connaissances, mais pas la connaissance du salut. On va enseigner à propos de ça aujourd'hui. On aura un bon temps ensemble. Cette Bible va te rendre sage par rapport au salut. La chose la plus incroyable qui s'est passée envers nous, c'est tellement important. Cette Bible, la parole de Dieu, elle est dépendante, on peut dépendre, elle est nécessaire, elle est suffisante. La Bible est suffisante. J'ai rencontré tellement de gens qui sont dans leur habitude de lire la Bible, de penser à ce que la Bible dit. Ils parlent la Bible, ils se sont retrouvés eux-mêmes confortés et édifiés profondément. En passant par là, Pasteur Paul Paradis, au Connecticut, il est décédé hier. Pasteur Paul Paradis, dans l'état de Connecticut, on savait qu'il était malade. On est allé là-bas hier soir, on était avec la famille. Il était sur son lit de mort. Il était conscient. On a voyagé 5 heures et demie pour aller là-bas. 2 heures avec la famille, on est resté. Pasteur Paul, avec beaucoup de respect dans notre cœur pour sa vie, sa façon de vivre, sa vie, sa famille. On a partagé la parole. La parole est une grande chose à avoir lorsque tu vas mourir. Tu ne peux pas avoir quelque chose de mieux que ça. La parole de Dieu te rend sage au salut. Ça te réconforte. Ça te prépare pour cette vie ici. Si tu as 14 ans ou 44 ans ou 94 ans, ça te rend sage. Ça te réconforte. Ça nous enseigne comment de vivre, comment de penser. Comment d'aimer et d'être humble. La Bible est au-dessus de moi. Ça se passe comme ça. La Bible est au-dessus de moi. Je suis soumis à Dieu dans ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, je l'obéis. J'obéis Dieu, en fait, si j'obéis à ce qu'il dit. La Bible me dit, si je demande à Dieu, montre-moi, dirige-moi, illumine ma pensée, il le fait. Mais la théologie libérale, les églises libérales, ils prennent la Bible et ils la mettent en bas, en dessous de la pensée des hommes. Ils la rabaissent, ils la scrutinisent, ils la démontrent, ils la démantèlent à part, ils ne sont pas soumis, ils ne sont pas humbles. Pourquoi quelqu'un n'est pas soumis à Dieu? Il ne veut pas l'être. Il ne veut pas être soumis. Il ne veut pas obéir. On a été béni par notre nouvelle naissance. Alors qu'on regarde de là-dedans, on veut être soumis, on veut obéir. On définit la grâce de Dieu qui nous a promis d'apprécier cela, d'être réconforté. On a eu notre visite avec la famille. Sa femme, Anne, est tellement précieuse et ses enfants. On a prié, on a lu les Écritures, on a parlé, on a ri. On aimait Pasteur Paul Paradis, était inconscient. On a quitté la maison. 15 minutes plus tard, sa femme m'a téléphoné, elle a dit, il est passé dans l'éternité, il est décédé. Il vous attendait, vous, les gars, là, de venir, de le visiter, de le voir. Et après que vous êtes venus, vous êtes partis, il a fini. Il est décédé. Tournons dans Ésaïe, chapitre 1.
Verse
au verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Il parle à propos d'Israël. L'histoire, 700 années avant Christ, qui avait 40 années, Isaïe dit, Dieu dit, j'ai des enfants, Israël, j'ai eu Abraham, j'ai une semence, j'ai une nation, ils se sont rebellés contre moi. Au verset 3, le bœuf connaît son possesseur, son propriétaire, et l'âne la crèche de son maître. Ils savent où aller, les farmers, les fermiers, ils savent lorsqu'ils appellent les animaux. Je me rappelle, j'étais sur un cheval, lorsque c'était le moment d'aller à la maison, le cheval s'est retourné, il est rentré dans l'écurie. Il est allé à l'écurie, donc il attendait son temps. Je vais à la maison. Il sort de là où on était, il s'est retourné lorsque c'était l'heure, il est reparti, il allait à l'écurie. Les poissons, les oiseaux, ils savent où aller, les poissons. Ils migrent, ils immigrent, les insectes savent. Tellement d'exemples dans le monde naturel où les animaux, les oiseaux, les insectes, ils connaissent. Les cigales, ils sont enterrés dans la terre pendant 17 ans. Ils savent lorsque c'est le temps de sortir. C'est incroyable. Mais mon peuple, ils ne savent rien. Ils ne veulent pas. Ils sont rebelles, ils ne veulent pas me connaître. Mon peuple. C'est comme cette image où Dieu fait une alliance avec Abraham et Abraham dormait, il y avait la terreur dans les ténèbres. Le Seigneur dit, je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas l'utiliser pour le sauver. On va faire une image au tableau. Jésus nous a rachetés avec son sang. Il a payé un prix pour nous. Il n'a pas payé une partie du sang. C'était une partie, c'était payé par son sang. Il n'a pas dit, le reste du salut, c'est à vous, les gars. J'ai fait ma partie, faites votre partie, vous, et vous serez sauvés. Faites votre part. Moi, j'ai payé une partie, j'ai versé mon sang. Je vous ai racheté en partie. Vous devez payer votre partie, vous, maintenant. C'est une idée commune des gens que les gens ont. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu va te rendre sage par rapport au salut, concernant le salut. La parole de Dieu nous enseigne. Je ne pouvais pas dépendre sur toi. L'âne connaît son maître. Il connaît, il sait où aller chercher sa nourriture. Il connaît la crèche. Et le bœuf connaît son possesseur, son maître. Mais mon peuple, ils ne connaissent rien. Ils ne peuvent rien faire. Je dois faire quelque chose. Je dois les sauver. Je dois les changer. Je dois leur donner un nouveau cœur. Je dois leur donner un nouvel esprit. Je dois changer leur pensée. Je dois changer leur cœur. Je dois leur donner. Ça doit venir de l'extérieur. Je pensais à ça hier. Alors qu'on voyageait dans la voiture, il y a quelque chose qui est venu clairement dans ma pensée. Le salut, c'est comme un manteau. Donne-moi ta veste ou ta veste de costume. Ça, c'est le manteau. Il y avait le mariage, vous vous rappelez, la fête, et quelqu'un était là au mariage sans le manteau, sans la veste qu'il devait porter. Comment est-ce qu'il est rentré là-dedans? Il n'a pas les vêtements des gens qui sont à la fête, là, qui sont au mariage. Jetez-le à l'extérieur. Sortez-le. Il y a une histoire humaine. Personne ne va au ciel sans avoir le vêtement. C'est une justice imputée légalement aux croyants. Est-ce qu'il a fait son manteau? Est-ce qu'il a acheté? Jésus-Christ l'a acheté avec son sang. Jésus-Christ a acheté notre salut. Christ te l'a donné par la grâce, n'est-ce pas? C'est par la grâce, est-ce qu'il a mérité? Non! lorsqu'il était impie, lorsqu'il était sans force, lorsqu'il ne connaissait pas Dieu, Dieu lui a donné. Sa tête est malade. Il est malade. On va lire ça dans Ésaïe. J'aime parler de Pasteur Steve Androlonis à propos de comme ça là. On va lire verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Qui? Israël. Mais qui aussi? Nous, les enfants qui sont corrompus, à la race des méchants et aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière, ils se sont retirés. Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la compassion, c'est comme ça que Dieu est avec nous. Pourquoi est-ce que vous seriez frappé encore? Vous souffrez, vous. La tête entière est malade, tu souffres avec ta drogue, avec la fornication, avec l'incrédulité, tu souffres, tu apprends, tu vas partout, à droite, à gauche. Romains, Daniel, chapitre 12, verset 4. Vous cherchez après des aimants, vos amants, vous êtes tourmentés, ils vous laissent vides, vos amants. Tu vis dans comme une nation adultère. Jésus a dit une nation méchante est une nation adultère. Ils cherchent après d'autres amants. Vous êtes frappés. Pourquoi être frappés encore plus que cela? Verset 5. Vous allez vous révolter de plus en plus. La tête entière est malade. Et tout le cœur est souffrant. La tête entière est malade. Je pensais, pendant notre Sainte Cène ce matin, quelqu'un a dit, probablement, Pasteur Steve, et la pensée m'est venue, on est tellement en tort, on fait des grandes histoires avec des petites choses. Les petites choses que l'on néglige devraient être des grandes choses dans notre vie. On devrait avoir des grandes pensées dans notre vie. La grande grâce, un grand Dieu, le nom de Dieu, la nature de Dieu. On a Toyota, Microsoft dans notre vocabulaire, dans nos mots, dans nos paroles. On parle plus du temps, de la température, des équipes de football. Mais la vérité qui change nos cœurs, qui nous purifie, qui nous dirige, qui nous réconforte. Laissez-moi vous montrer quelque chose à l'écran, d'autres paroles. Ça, c'est une petite méditation que j'ai aussi, miniaturisée méditation. Les paroles ou les mots naître, une noisette qui doit être craquée, une noisette à l'intérieur. Il y a le mot, mot, M-O-T, mot. C'est comme une noisette qui a une coquille. Une coquille. Je dis Dieu? Oui, Dieu. OK. Dieu. Je connais le mot Dieu. D-I-E-U. Ça doit être craqué. Cette noisette doit être brisée. Tu ne connais pas le mot. Tu penses que tu connais le mot? Tu ne connais pas le mot. Ça, c'est le défi dans notre ministère. Les gens pensent qu'ils connaissent, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment? Jésus a dit, tu as des oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Vous avez des cœurs, mais ça ne touche pas votre cœur. Vous avez des cœurs, peut-être d'être familier avec cela. Oui, j'étais à l'église pendant, je connais ça, j'ai lu la Bible. Je me rappelle, je rencontre des gens parfois pendant les années. Oui, j'ai lu la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? J'ai lu la Bible. Je lis la Bible. Je lis la Bible. Oui, j'ai lu. Vraiment? 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 Est-ce que vous avez cassé la noisette, ouvert, brisé? Vous avez ouvert la noisette? Est-ce que Dieu a ouvert la Bible pour toi? Est-ce que ça t'a nourri? Est-ce que ça t'a changé? Est-ce que Dieu t'a sauvé? Es-tu un croyant? As-tu des mots, des paroles? Ma parole, est-ce qu'elle soit la lumière? Et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est pas juste un verset biblique. C'est la réalité. Le ciel et la terre vont passer, mais pas ma parole. C'est la réalité. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Pouvez-vous croire, imaginer que nous, on tient dans notre main avec la Bible la parole de Dieu qui ne passera jamais, qui ne s'éteindra jamais. Donc maintenant, on va parler, on va administrer à Pasteur Steve parce qu'il souffre là. On a parlé à propos de son cœur et de sa tête, donc regardons Pasteur Steve et lisons dans la Bible. Il le taquine là un peu, le pasteur. La tête entière est malade, Pasteur Steve, et le cœur est souffrant, le cœur entier souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Rien, ce sont que des blessures, contusions et plaies vives. Blessure. Oh, tu m'as offensé. Tu m'as offensé. Ok. Tu es offensé? Ok. Est-ce que tu peux supporter ça? Qu'est-ce que ta vie à propos de moi? Tu m'as offensé. Tu m'as blessé. Je sais, je comprends. Dieu nous a dit ceci dans les Écritures. Tu es rempli de blessures. Tu es rempli de contusions. Tu es une personne qui est blessé. Je suis Dieu. Jésus dit, je suis Dieu. Je te donne ce grand don. Si tu lis les Écritures, tu vas savoir ce que ça veut dire, ce don. Les Écritures vont te rendre sage au salut. Tu vas connaître ça. Tu vas savoir, ça sera à toi ça. Parce que tu ne peux pas le faire toi-même. Moi, je le fais. Je t'ai sauvé. On a trois personnes dans la Trinité. On va terminer bientôt. Voici. Dieu t'a sauvé. Le Père. Le Fils. Et le Saint-Esprit. Ils sont comme la lampe qui brûle, la lampe qui brille. Ces trois-là, ils ont fait un accord ensemble, les uns et les autres. Le Fils dit, Père, c'est quoi le plan? Le Père dit, toi, tu es le sauveur du monde. Tu vas satisfaire mes demandes justes. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas compromettre. Je suis Dieu. Je ne peux pas voir l'iniquité. Je ne peux pas regarder à l'iniquité. Je ne peux pas la voir. Je ne peux pas accepter l'iniquité au ciel. Mais je les ai créés à mon image et j'ai un plan. Je vais les élire, les prédestiner, les choisir. J'ai toute connaissance. Avant qu'ils furent créés, je les ai choisis avant la fondation du monde. Et le Fils dit, tu vas m'envoyer, je vais être envoyé, tu vas devenir le péché. Tu vas devenir le péché pour le monde entier. Pour le salut des croyants. Tu vas faire cela, tu vas m'obéir. Le Fils a dit, je vais t'obéir et je vais avoir mes délices de faire ta volonté. Je suis le sauveur du monde. Je vais devenir péché. 2 Corinthiens 5, 21. Je vais faire cela. Le Saint-Esprit dit, moi je vais le révéler aux gens. Je vais leur montrer. Je vais les inspirer, inspirer les hommes. Ça, c'est une façon humaine de dire que dans 2 Pierre 1:21, la parole, ce n'est pas la parole des hommes, mais les hommes saints de Dieu étaient remués dans leur cœur alors que le Saint-Esprit leur a donné les paroles et les ont écrites. Le Saint-Esprit a dit, je vais les sceller. Je vais faire une garantie. Je vais demeurer en eux dans Éphésiens 1:13. Je ne vais jamais les abandonner, jamais les laisser les quitter. Je ferai cela. D'une certaine façon, c'est la même chose parce qu'Abraham a reçu une alliance par rapport à la nation d'Israël. Et Abraham, il était là-dedans, mais dans un autre sens, il était à l'extérieur, il est tombé de sommeil, il était dans les ténèbres. Et parfois, je me sens comme ça, moi. Si ça dépendait sur moi, je ne m'en sortirais pas, je n'y arrive pas. Si mon salut dépendait de moi, je serais trop court. Je serais coupable, je questionnerais. Sur le salut. Je ne croirais pas ça complètement. Je ne penserais pas que ça s'est passé envers moi. Mais lorsqu'on lit les Écritures et on les étudie, lorsqu'on comprend la nature de Dieu, Dieu t'a donné un vêtement de justice. Ce n'est pas à toi. C'est venu de Dieu. Ce n'est pas de toi. Il nous a rendus justes. Maintenant, c'est à nous, bien sûr, mais ce n'est pas venu de nous. Ça nous a été donné. Imputé. Maintenant, nous sommes par sa grâce. Nous sommes sauvés et justifiés. Dans Ésaïe chapitre 1, on arrive à cette partie-là. On a lu le verset 6. Il parle comme il est fatigué avec les peuples juifs et leur religion. Il est las. Sodome et Gomorrhe, au verset 10, il parle. Vos sacrifices, au verset 11, la multitude de vos sacrifices, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la grâce des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, mon âme et ses nouvelles lunes et vos fêtes, elles sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Je pense aux États-Unis d'Amérique aussi. On s'est éloigné de la parole de Dieu. On a massacré nos enfants. On a menti, on a été séduit et corrompu. On a menti, on a trahi de façon différente, triché. Ça, c'est la nation d'Israël et le monde de l'Ouest aussi, de beaucoup de façons. Pas totalement, mais par rapport à cette parole de Dieu, Dieu nous dit, mais je vous aime. Au verset 18, « Venez et plaidons. Plaidons ensemble, dit l'Éternel. » J'aime ça. « Venez maintenant. Écoutez-moi. Et raisonnons ensemble, plaidons. » Raisonnons. Quel genre de raisonnement? J'aime lorsqu'un enfant, il y a le papa avec son adolescent, ou le manager, le coach sportif, il essaie de les diriger. Venez, j'ai quelque chose à dire de profond. Alors que si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Quel genre de raisonnement c'est cela? C'est comme Pasteur Steve et son manteau. On peut dire ça de cette façon. Pasteur Steve, tu sais que tu n'as pas ça en toi. Tu as tes choses à toi, mais ça te rend vide. Tout ce que tu as dans ta vie, ça ne te satisfait pas. Viens, venez, viens avec moi, raisonnons. Alors que vos péchés sont comme le cramoisi, ils seront blancs comme la neige. Grâce à moi.
You see, I want you to get this.
Je veux God que vous saisissiez cela. Dieu dit, je suis votre salut.
I am.
Je suis celui.
I make the difference.
Je fais moi la différence. Je change ta vie. Je te remplis de l'esprit. Je t'ai choisi avant la fondation du monde. Je parle à ton cœur. Je te donne ceci, ce manteau. Tu es rempli de contusions et de blessures. Tu es confus à propos de toutes choses dans ta vie. Tu peux parler, 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 mais tu ne viens jamais chercher ce que j'ai pour toi. Oublie toutes ces choses à toi. Écoute-moi et venons et raisonnons ensemble. Plaidons. Si tes péchés sont comme le cramoisi, la pourpre, ils deviendront blancs comme la neige. C'est moi qui ai fait cela. Je suis celui qui a fait cela. J'ai fait une alliance avant la fondation du monde avec moi-même. Et je te donne cela par ma grâce. Certains d'entre vous peuvent dire, je veux apprendre à vivre la vie chrétienne. C'est comme ça que vous apprenez. Vous apprenez la nature de Dieu. Vous ne commencez pas avec vous-même, si je prie non, si je médite suffisamment, est-ce que je lis la Bible suffisamment, est-ce que je me comporte bien, tout ça. Tout ça, tu grandis dans la compréhension de cela. Mais ce que l'on parle, c'est la fondation de notre christianisme. Ça s'appelle la grâce. C'est la nature de Dieu. C'est ce qu'il nous a donné. C'est qui il est. C'est le moteur derrière ça. C'est l'amour. C'est une nouvelle façon de penser. C'est un nouveau cœur. C'est ce qu'il nous a donné. C'est ce qu'il a fait pour nous. J'ai un papier ici. Les positions du croyant grâce à Jésus-Christ. Comment il est positionné? Il a été préconnu, élu. Nous sommes choisis. On est appelés. On est réconciliés par Dieu. On est racheté, on est né de nouveau. Nous sommes régénérés. On a été rendu juste. On est justifié. Nous sommes glorifiés. On est adopté. On est complet, parfait en lui. On est sanctifié, on est pardonné. On est vivifié, on est perfectionné. On est accepté. On a été qualifié. On est crucifié. On est crucifié, enterré avec lui. On est ressuscité avec Jésus-Christ. On est né de l'Esprit. On est baptisé dans l'Esprit. On est habité par le Saint-Esprit. On est scellé par le Saint-Esprit. On est en Dieu, en Christ. Nous sommes dans l'Esprit. On est mort à la loi. On est délivré de la loi. On est circoncis en Christ. On est rapproché de Dieu par le sang. On est délivré de la puissance des ténèbres. On est transféré dans le royaume. On a été donné comme un don à Christ par le Père. Il nous donne la vie en son nom. On ne mourra jamais. Imaginez-vous. Qui est un croyant? Qui est Christ pour le croyant? Il est celui qui est le perpétuateur, la fondation. Il est notre vie, notre tête, notre mari, notre avocat, notre frère, notre ami, notre berger, notre souverain sacrificateur. Christ pour le croyant. Il nous a fait, il nous a rendu fils de Dieu, une nouvelle création. Nous sommes les membres de son corps, membres de son épouse, l'épouse de Dieu, un croyant, la génération, un sacrificateur, un bâtiment, citoyen du ciel, on est des laboureurs, on travaille ensemble, on est des ministres, nous sommes ses frères, sa maison, de sa maison, nous sommes ses bien-aimés. Écoutez tout cela, ça s'est passé à des gens qui sont malades dans leur tête. Ça s'est passé envers nous. Nous sommes éloignés de la croix. On s'est enfui. Jésus, au dernier repas, il a dit, vous allez vous enfuir, mais je ne vous abandonnerai jamais. Vous allez être effrayés pour votre vie. Dans le jardin de Gethsémané, ils se sont tombés de sommeil. Jésus qui prie avec la, il transpire, il a les gouttes de sang. Qu'est-ce que ça signifie? Il nous a sauvés. Il nous a rachetés. Il nous garde. Il nous aime. Notre nom est dans son livre. Il a fait cela. Tu es en sécurité. C'est très important. Nous sommes en sécurité. Venez, raisonnons ensemble. Je vais vous rendre aussi blanc que la neige parce que j'ai donné mon propre fils afin que vous soyez rachetés et sauvés. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que les gens dans la rue connaissent cela? Si je ne connais pas la Bible, moi, ces gens dans la rue ne vont pas connaître la Bible. Ils ne seront pas sages au salut. Si je ne suis pas sage au salut, moi, comment est-ce que je vais évangéliser? Comment est-ce que je vais donner de la bonne nouvelle à un homme qui meurt? Comment est-ce que je peux rester par quelqu'un qui est en train de mourir dans son lit, je peux lui donner un message d'espoir et de sécurité? Comment est-ce que je peux aider un adolescent? Il est un adolescent qui a la nouvelle vie. Comment est-ce que je peux dire à un menteur, un voleur, un adultère, un homme qui est juste, orgueilleux, mais sa justice, c'est sa propre à lui? Comment est-ce que je peux avoir un ministère auprès de quelqu'un qui est un incroyant? Comment je peux avoir un message pour les gens en Ukraine et en Russie et en Chine et en Inde et dans n'importe quelle partie du monde? Comment est-ce que je peux affecter mon voisinage, mes voisins, mes amis et ma famille si je ne suis pas sage au salut? Wow. Amen.